As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager. Customers are rushing to your store. Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business. Take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. shopify.com/theathletic.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Bonjour mon ami, comment ça va?
Ça va bien Marc-Antoine, ça va bien. En tout cas, c'est plate que le Canadien soit plus là, mais j'adore avoir des séries de la Ligue nationale écoutées à télé sans le couvrir.
Oui,
ce qui est le fun. Ça fait différent. Puis comme j'adore le hockey, c'est le fun juste de m'asseoir devant mon télé puis juste écouter le match sans prendre de notes ou quoi que ce soit. C'est le fun.
Oui, absolument. Puis c'est assez imprévisible l'allure que ça va prendre d'ici la fin avec des équipes de tête qui sont sorties rapidement, d'autres équipes qui sont un peu plus qu'on voyait moins venir, comme les Islanders de New York, je pense qu'ils causent une belle surprise jusqu'à maintenant. Mais écoute, je pense que là, aujourd'hui, évidemment, la saison du Canadien est finie. On va faire un peu un bilan de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Mais tu parles des séries éliminatoires puis du hockey qui se joue. J'aimerais ça qu'on commence avant qu'on morde dans le sujet du Canadien comme tel, qu'on s'attarde quelques minutes sur le hockey qui ne se joue pas, qui ne s'est pas joué dans les deux derniers jours. C'est assez remarquable de voir les équipes impliquées dans les séries de la Ligue nationale qui se sont, en fait, les joueurs impliqués qui vraiment ont décidé de mettre un pied à terre et de manifester leur appui aux questions de justice sociale et tout le mouvement Black Lives Matter. Je sais qu'on en a parlé un petit peu plus tôt cet été, mais j'ai l'impression que là, on vient de franchir un pas beaucoup plus significatif parce que, à ma connaissance, c'est la première fois que des joueurs de la Ligue nationale refuse de participer à des matchs comme tel pour une raison ou une autre. Fait que je serais curieux d'avoir ton impression générale sur la façon dont tout ça s'est développé au cours des derniers jours, des dernières heures.
Honnêtement, je suis très, très surpris, en fait, de la façon que les joueurs de la Ligue nationale ont réagi. Je l'ai dit, tu sais, au moment où les joueurs de la NBA ont décidé, les joueurs des Bucks de Milwaukee, surtout, qui se trouvent tout juste à côté de Kenosha, en Wisconsin, où Jacob Blake s'est fait tirer 7 fois dans le dos par un agent de la police. Lorsque les Bucks de Milwaukee ont décidé de ne pas jouer, puis tout d'un coup, tous les joueurs du NBA ont décidé qu'eux non plus ne vont pas jouer, je ne m'attendais vraiment pas à voir des joueurs de la Ligue nationale agir d'une façon similaire, aucunement. C'est parce que ce qui était clair, tu sais, ce jour-là, il y avait beaucoup de monde qui commençait à critiquer la Ligue nationale de hockey, la Ligue elle-même.
Ouais.
Parce que la Ligue, elle n'avait pas réagi. Et puis Bill Daly avait sorti un commentaire à Chris Johnson de Sportsnet en disant que nous, on n'a pas l'intention de remettre les matchs, mais les joueurs ont le droit de s'exprimer comme ils veulent. Alors, dans le fond, c'était aux joueurs de décider de le faire. Et c'était une source de critique pour la Ligue nationale, mais c'est pas la NBA qui a annulé les matchs, là. C'est les joueurs de la NBA qui l'a fait. Tu sais, les Brewers de Milwaukee, une fois qu'ils ont vu que les Bucks ont fait, les autres, ils ont décidé de pas jouer leur match de baseball ce soir-là. Alors, c'est pas les ligues majeures de baseball qui ont décidé d'annuler ce match-là. C'était les joueurs des Brewers. Et je m'attendais jamais à voir les joueurs de la Ligue nationale qui sont surtout, et je parle en termes très général, mais historiquement, ne se mêlent pas de ces affaires-là. C'est plus souvent que non, ils veulent garder leur concentration sur le hockey. Tous les enjeux sociaux sont vraiment pas quelque chose qui les importe publiquement, au moins. C'est quelque chose qui sont un peu mal à l'aise souvent d'en parler sur la place publique. Alors de voir comment le lendemain, les joueurs ont pris ça en main. Les joueurs des Canucks de Vancouver qui voulaient parler à Ryan Reeves des Golden Knights de Vegas, contre qui, tu sais, on s'entend que Ryan Reeves a été un peu la vedette de cette série-là jusqu'à date à quel point il narguait un peu les Canucks puis s'imposait physiquement. Alors c'était un peu il jouait le rôle de vilain dans la série. Alors le fait que les Canucks ont voulu lui parler et que tous les joueurs dans les deux bulles à Edmonton et à Toronto se sont rassemblés, ils ont discuté, ils ont pris une décision collective, mais surtout le fait qu'ils ont été proactifs là-dessus, ils n'ont pas attendu que quelqu'un leur dise quoi faire. Ils ont pris ça en charge eux-mêmes, puis ils ont pris une décision. Une décision de conscience, c'est une décision de vraiment qu'il y a une responsabilité quand vous êtes sur la place publique, quand t'es célèbre, puis que t'as beaucoup d'attention sur toi. Il y a des moments où il faut prendre ça et utiliser ça pour faire un point, puis pour s'impliquer dans les enjeux de société. Puis je m'attendais pas à voir. Puis je l'ai même tweeté la journée où la NBA a décidé de remettre leur match que. Je pense que ça, j'ai dit, je pense que ça va être longtemps avant qu'on voit les joueurs de la Ligue nationale faire ça. Puis, dès le lendemain, ils l'ont fait, alors bravo. Je suis content d'avoir eu tort ce jour-là, mais je suis vraiment impressionné de la façon que les joueurs ont réagi.
Ouais, ben écoute, je sais que la Ligue nationale a fait l'objet de critiques sur le moment, puis je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que ce soit l'institution, la Ligue elle-même qui agisse, parce que j'imagine qu'ils sont préoccupés de se mettre... trop de gens à dos, trop de consommateurs à dos, mais je te rejoins tout à fait quand tu parles de la responsabilité des joueurs d'utiliser, ou en fait de la possibilité du moins qu'ils ont, d'utiliser leur voix en tant que modèle dans la société. On dit souvent que les athlètes sont des modèles pour les jeunes, ce sont d'une certaine manière des influenceurs. Puis au hockey, c'est tellement pas dans la culture traditionnelle de ce sport-là qui véhicule beaucoup plus des questions d'humilité, de je me cache derrière mon équipe, je m'efface en fait, je m'efface derrière mon équipe, et ça fait en sorte que c'est toujours le logo en avant plutôt que le nom en arrière. C'est souvent ce qui est dit à propos des joueurs de hockey, et la culture du hockey a fait en sorte qu'on a on les a jamais vraiment vus s'exprimer. Quand on regarde au basketball, par exemple, où le sport est un sport, on va se dire, majoritairement pratiqué par des athlètes noirs, cette conscience sociale-là par rapport à tous les enjeux relatifs à la condition des Noirs aux États-Unis, c'est beaucoup plus au centre de leurs préoccupations. Et les joueurs de basketball ont beaucoup plus développé cette propension à parler puis à s'exprimer sur ces sujets-là, que ce soit les joueurs...
Parce qu'ils l'ont vécu.
Ils l'ont vécu, mais même des entraîneurs au basketball, des entraîneurs blancs, que ce soit Greg Popovich, exactement, c'en est un, ou encore Kerr avec Golden State. Bon, il y en a quelques-uns comme ça. Et peut-être que ça aussi a à voir avec le fait qu'il y a moins de joueurs au basketball. Chaque joueur est une vedette et est un élément tellement important au sein d'une équipe que chaque joueur a pris plus d'importance et fait en sorte qu'il se sent davantage impliqué. Peut-être qu'au plan social, ça a un rôle à voir aussi. Au hockey, c'est pas dans la nature des choses de fonctionner comme ça. Alors, on a beau avoir critiqué la Ligue nationale de dire « Ah, ben là, ils ont été en retard dans la parade puis ils font juste suivre. » Mais là, un instant, cette discussion-là, au plan social, puis l'implication que les joueurs de la Ligue nationale peuvent avoir dans ce débat-là, ça date de cet été. Ça, c'était à peu près inexistant, à part peut-être une timide campagne de la Ligue là, sur la diversité dans le hockey pour tout le monde, blablabla. Mais c'est vraiment depuis cet été que les choses commencent à bouger. Il y a des joueurs de couleur qui ont mis sur pied l'Alliance pour la diversité dans le hockey, qui devient, dans ce cas-ci, un vecteur extrêmement important pour relayer le message et pour exprimer le message des joueurs de la Ligue nationale. Tu parlais de Ryan Reeves tout à l'heure. C'est un des joueurs qui est au centre de cette initiative-là. Mais je pense que quand on regarde je pense que ce serait ingrat envers les joueurs de hockey, qui, eux, sont à majorité blancs, de les mettre sur un pied d'égalité avec la NBA en disant « Ah, ben là, ils n'ont pas agi en même temps que la NBA. » Quand tu regardes le chemin qu'ils ont parcouru en un seul été, je pense qu'il faut quand même lever leur chapeau, puis leur dire « Ben, quand même, ils ont... » Ce 24 heures-là, il a peut-être paru long pour certains, mais je trouve que c'est un 24 heures qui a valu la peine, parce qu'en bout de ligne, les joueurs de la Ligue nationale s'expriment comme on souhaiterait qu'ils s'expriment.
Ouais, puis c'est une 24 heures qui sont très significatifs, là, parce que comme tu as très raison de mentionner que cette prise de conscience-là n'existe pas depuis longtemps dans la Ligue nationale. Puis il faut être honnête avec les réalités des deux ligues quand on compare la Ligue nationale au NBA, c'est que le sport du hockey tel quel, étant donné que le temps de glace coûte de l'argent, l'équipement coûte beaucoup d'argent, juste jouer ce sport-là à un niveau élite coûte beaucoup d'argent. Alors, ça fait en sorte que peu importe ta race ou ton ethnicité ou quoi que ce soit, ton background, t'as besoin de l'argent pour jouer du hockey à un haut niveau. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et ça fait en sorte que je pense que la plupart des joueurs qui se rendent à la Ligue nationale n'ont jamais vraiment vécu les réalités de la pauvreté en général. Et étant donné que la grande majorité des joueurs de la Ligue nationale sont blancs, ils n'ont jamais vécu la réalité du racisme, ils n'ont jamais été victimes de ça, ils n'ont jamais compris comment ça sent quand tu rencontres ça ou quand tu fais face à ça comme enfant. Ce qui est la réalité de beaucoup, beaucoup de joueurs de hockey de couleur qui, tu sais, dans les rangs mineurs, dans des petites villes, un peu partout, où il y a des parents qui vont dire des choses, tu sais, c'est quelque chose avec lequel que tu montes les échelons du hockey, puis c'est peut-être jamais quelque chose qui t'a vraiment arrêté, tu sais, tu espères au moins, mais c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est dans ta réalité, qui est peut-être pas dans la réalité des autres joueurs. Alors, c'est à cause de ça, puis on parle juste pas des Noirs, mais tu sais, il y a plusieurs joueurs des Premières Nations là, qui ont vraiment, vraiment été victimes des choses horribles au niveau mineur en hockey. Je pense à Jordan Tutu, Jonathan Chichu, il y en a plusieurs. Et c'est difficile, je pense que ça a toujours été trop facile pour les autres joueurs de la Ligue nationale, de se dire que ah, c'est quelque chose que je comprends pas, alors je vais rien dire parce que honnêtement, c'est pas ma place de le dire. Et ça se comprend d'une certaine façon parce que tu sais, quand t'as pas vécu ça, quand tu comprends comment ça sent d'avoir ça dans ta vie, c'est vrai que tu vas sentir mal à l'aise de trop dire là-dessus, de vraiment t'exprimer. Alors, tu sais, je comprends ce point de vue-là, sauf qu'à un moment donné, il faut que ça change. Et pour que ça change, t'as besoin des meilleurs joueurs, et non seulement les joueurs noirs, mais t'as besoin des meilleurs joueurs de la Ligue, des joueurs blancs, de dire que c'est pas acceptable et que ça devrait changer. Parce que ce que ça fait, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit qu'il écoute le hockey de la Ligue nationale, effectivement, pour éviter ces enjeux sociaux-là. Il veut pas penser à ce qui se passe dans le monde. Quand il s'assoit pour écouter un match de hockey, il veut oublier tout ça. Alors, quand un Sidney Crosby ou un Connor McDavid ou qui que ce soit sort et dit quelque chose, je trouve que ça résonne avec ce monde-là qui veut éviter ces problèmes-là parce qu'ils ont l'option de le faire. Ils ont l'option de l'éviter parce que ça leur touche pas. Ils ne sont pas des victimes de racisme. Alors, si ça continue à exister dans la société, ça change aucunement leur vie. Alors, quand ces joueurs-là disent quelque chose, ça force ce monde-là à penser à un problème de société qui vraiment a besoin de changer. Puis ça leur... Tu sais, la première chose, quand tu sais, tous les joueurs à Edmonton, tu sais, de l'association de l'Ouest, quand ils se sont tous mis ensemble, tu sais, c'était tellement une image... qui avait un impact, tu sais, puis Ryan Reeves qui parle du fait, check tous les joueurs blancs qui sont avec nous, c'est pas juste nous qui parlent, tu sais, c'est pas juste lui et Pierre-Édouard Belmont puis Nazem Kadri qui étaient tout en devant de la groupe, mais c'était, tu sais, ils sentaient supportés par les joueurs blancs. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est que ce soir, au lieu d'avoir des faits saillants d'un match de hockey ou deux matchs de hockey à leur nouvelle le soir, ils vont avoir ça.
Oui.
C'est ça l'image qui va être projetée pour tout le monde, et ça, c'est un impact, et ça, c'est important, puis c'est un changement important pour la Ligue nationale.
Tu sais, c'est certes, je sais que ça t'est arrivé par le passé, ça m'est arrivé également, quand on commente sur notre plateforme Twitter ou ailleurs, des trucs qui dépassent le cadre du hockey, des fois, il y a des gens qui vont nous dire, ah, tenez-vous-en à parler de hockey, tu sais.
Ouais.
C'est souvent justement...
Ça m'est arrivé ce matin.
Ben voilà, c'est ça. Alors, parce que c'est des gens qui, comme tu disais tout à l'heure, qui cherchent à utiliser le sport comme échappatoire pour pouvoir se réfugier loin de ces enjeux-là. Sauf qu'à partir du moment où les joueurs eux-mêmes forcent cette conversation-là, c'est comme si les joueurs eux-mêmes refusaient que le sport devienne un refuge et qu'il soit... Et que cette conversation-là devienne incontournable en quelque sorte. Puis c'est là où je pense que c'est un geste courageux de la part des athlètes de dire ben c'est suffisamment important à nos yeux pour qu'on sorte de notre réserve habituelle, puis qu'on utilise notre voix pour s'exprimer sur quelque chose qu'on ne peut plus ignorer puis qui doit changer. Alors je pense que ça devient non seulement, c'est plus seulement de dire, ah, les journalistes sportifs devraient rester dans leur rayon, puis peut-être qu'il y en a qui le pensent, puis qui ont sauté quelques minutes de notre balado pour essayer d'aller rejoindre juste le bout où on parle des Canadiens tout à l'heure, mais pour les journalistes sportifs, c'est même, on couvre cet événement-là parce que, d'après la volonté des joueurs eux-mêmes, c'est ce qui importe le plus à l'heure actuelle. Puis je pense que c'est là où, sans que le hockey ne soit transformé dans une arène politique ou une arène partisane, quoi que ce soit, pour l'éternité, je pense qu'il y a quand même des messages qui doivent passer. Puis le fait qu'il y ait déjà eu une première salve de cette discussion-là au mois de juin, dans la foulée de la mort de George Floyd à Minneapolis, puis que, là qu'on revienne avec ça, c'est que c'est un enjeu qui ne disparaîtra pas, puis les athlètes professionnels disent on va continuer d'en parler jusqu'à ce qu'il y ait des progrès qui soient faits à ce niveau-là. Puis à mon sens, c'est admirable.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est juste, c'est admirable, surtout dans le sens où c'est un changement pour la Ligue nationale de hockey. T'sais, c'est pas nécessairement un changement pour la NBA. C'est pas nécessairement un changement. Le fait qu'ils décident de jouer, pas jouer, oui, ça c'est sans précédent. Là. C'est, je pense, la dernière fois qu'il y a eu un genre de walk-out dans la NBA. C'était dans les années 60. Et dans les années 60, la raison que les joueurs l'ont fait, comme Bill Russell puis les meilleurs joueurs, ont décidé de pas jouer un match, c'était à cause de l'injustice raciale, dans le fond. Là. C'était le même enjeu. 50 ans plus tard, c'est la même chose qui arrive. T'sais, c'est comme il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et le fait que la ligne... Mais dans l'historique de la Ligue nationale de hockey, il n'y a jamais eu ça. Alors, moi, je pense que c'est un changement pour le meilleur, pour la Ligue et pour les joueurs, de se sentir confortable, d'agir en sorte qu'ils sentent... Ou en fait, qu'ils font un effort d'avoir un certain impact en société, à part juste leur sport. Et si ça rend du monde mal à l'aise ou si ça rend du monde même en colère, ben tant pis, là. Honnêtement, moi, je trouve que c'est un bel changement. Puis j'espère que ça va encourager des joueurs d'en parler plus, s'il y a des choses qui leur dérangent, peu importe le sujet, mais s'il y a des choses dans la vraie vie, parce qu'on s'entend que nous, on ne travaille pas dans la vraie vie, toi, moi, les joueurs, tout le monde qui est impliqué au hockey, on travaille dans un monde un peu de fantaisie, là, mais il y a un vrai monde qui fonctionne et roule en tout temps. Et c'est pour ça, tu sais, de voir Alain Vigneault qui dit que je suis pas trop au courant de ce qui se passe en dehors de ma bulle. Je trouvais que c'était un peu malheureux comme réponse, même si c'est vrai. Je doute pas que c'est ça qu'il fait. Il est juste concentré à 100% sur son job, puis c'est vrai. Je comprends.
Oui, mais c'est-tu quoi? Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que sans même qu'il le sache parce qu'il était tellement dans sa bulle, il était dans sa bulle, dans la bulle, les joueurs de son équipe étaient en train, pas dans son dos, mais à son insu, étaient en train d'avoir ce type de discussion-là, puis dire peut-être que ça vaudrait la peine qu'on ne joue pas le prochain match, tu sais, qu'il y ait des joueurs, des Flyers qui avaient ces discussions-là pendant que le coach, lui, était dans sa préparation d'avant-match. Alors, tu vois qu'il y a des initiatives. Quand on disait que c'était l'initiative des joueurs, je pense que c'en est un bel exemple parce que même leur coach n'était pas au courant.
Oui, absolument. Alors, c'est ça. Puis mon point, c'est qu'on ne peut plus, comme athlète et même comme entraîneur, tu ne peux plus te permettre de juste être dans ta bulle, dans la bulle. De juste complètement bloquer tout ce qui se passe en dehors de la vie, en dehors de ta bulle de hockey. Je trouve que... Tu sais, il y avait longtemps que tu pouvais... que je pense que la plupart des joueurs de hockey faisaient ça, particulièrement en séries éliminatoires. Ça se comprend parfaitement bien, mais à un moment donné, tu sais, quand il y a des forces... Quand la société a l'air... Tu sais, quand t'as l'impression que la société est en train de changer et changer pour le mieux, t'as une obligation, t'as une responsabilité de t'impliquer et juste au minimum d'être au courant. Et je pense que les joueurs de la Ligue nationale sont... non seulement au courant, mais il s'implique, puis c'est beau à voir. Moi, ouais. J'aime ça, je m'attendais vraiment pas à ça.
Absolument. Peut-être que le Canadien aurait pu faire partie de ces équipes-là qui choisissent de ne pas jouer, puis de s'exprimer à leur tour. Malheureusement, l'équipe est éliminée déjà. Alors, écoute, j'aimerais ça qu'on fasse une transition tout en douceur vers l'équipe qu'on couvre. Une équipe qui a surpris bien du monde en éliminant les Penguins de Pittsburgh, ramené un petit peu sur terre par les Flyers de Philadelphie. Mais je te dirais que même si le Canadien a perdu en 6 matchs, il y a eu plusieurs rencontres où l'équipe a eu le dessus, surtout à 5 contre 5. Et moi, je m'attendais à avoir du bien meilleur hockey, du hockey beaucoup plus dominant de la part des Flyers. Et puis, ça ne m'apparaît pas, même si sur papier, c'est une équipe qui a l'air bien équilibrée, bien balancée. L'équipe qui est venue à bout du Canadien ne m'apparaît pas prête à faire un très, très long bout de chemin en séries éliminatoires parce que honnêtement, le Canadien a eu le dessus par long moment dans cette série-là. Puis je pense que c'est étrange de voir qu'en bout de ligne, même si le Canadien a participé à 2 séries, officiellement, il a été éliminé au premier tour. Mais j'ai jamais vu le Canadien se faire éliminer en première ronde des séries puis repartir à la maison avec autant ce sentiment de dire « Ah, ben on s'en va dans la bonne direction ». C'est un peu étrange quand même.
Oui, oui, puis honnêtement, j'aurais aimé ça. Tu sais, j'aurais un peu aimé ça qu'un joueur, tu sais, comme Jonathan Drouin a mentionné, tu sais, que tout de suite après leur élimination, que tu sais, on n'est pas content d'être éliminé, mais mais on a aimé la façon qu'on a joué. On va dans la bonne direction. Tu sais, tout le monde, c'était très positif. De la part de la média, des médias aussi, moi-même, j'ai écrit un texte qui était très positif. Toi aussi, je pense que la plupart de la couverture des Canadiens après leur élimination était positif parce qu'effectivement, on a vu des choses qui donnent l'impression que ça s'en vient. Que le Canadien, ils font des pas dans la bonne direction. J'aurais aimé ça. T'sais, pourtant, j'aurais aimé ça voir un joueur dire que ça me tente pas de parler des positifs, là, on vient de perdre, whatever, mais ils l'ont pas fait. Alors, c'est bien correct parce que, honnêtement, c'est une belle façon d'avoir de la perspective là-dessus pour voir qu'effectivement, oui, ils ont causé la surprise, ils étaient pas supposés être là. Tout le monde, presque tout le monde prenait les Pingouins en trois matchs, en ronde préliminaire. Et alors, ils ont prouvé quelque chose de quelque sorte. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, puis honnêtement, ça a vraiment juste popé dans ma tête, c'est que, tu sais, on a pu parler à Claude Julien cette semaine. Claude Julien qui, évidemment, il fallait qu'il quitte après le premier match contre Philadelphie à cause d'une malaise cardiaque, un événement cardiaque qui l'a forcé de retourner chez lui. Mais, puis je suis en train d'écrire un texte là-dessus, c'est pour ça que ça m'a frappé, c'est que, tu sais, plusieurs fois, pendant sa conférence, de son appel conférence mercredi, Claude a mentionné, a utilisé l'exemple des Islanders comme étant la façon dont il aimerait que le Canadien joue un jour.
Ouais.
C'est comme le mode idéal pour son équipe. Et d'une certaine façon, c'est vrai, tu sais, toi et moi, on avait un débat à un moment donné entre nous deux sur le manque d'un joueur de concession en avant pour le Canadien. Et ce qui est vrai, et t'avais raison, c'est honnêtement, c'est quelque chose qui empêche le Canadien d'être une équipe d'élite, c'est avoir un Nathan MacKinnon ou un Austin Matthews ou quelqu'un qui, tu sais, sur lequel il peut compter pour avoir un tel nombre de buts et tel nombre de passes. Mais les Islanders me semblent comme l'autre, tu sais, à l'autre bout du spectrum, dans le fond, là, c'est vraiment une équipe. Matthew Barzal, c'est un joueur excellent, je l'adore regarder jouer, mais c'est vraiment une équipe qui est bâtie comme équipe et il roule en vague. Il vient en vague de trois attaquants, l'un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et c'est ça que Claude Julien voulait faire en mettant Max Domi sur le quatrième trio. Puis tout le monde était comme, mais pourquoi il fait ça? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Et puis éventuellement, ça n'a pas fonctionné, mais c'était pas à cause du Max Domi nécessairement. C'est que les ailiers qu'il avait avec lui n'avaient pas d'allure de jouer avec Max Domi. Mais s'il y avait des ailiers qui pouvaient garder le rythme et garder la rapidité et le niveau d'habilité de Max Domi, être capable de lui supporter, je pense que c'était pas nécessairement une mauvaise idée parce que, tu sais, tu regardes, j'étais juste en train de regarder le dernier match des Islanders contre les Flyers. Alors, ils rentrent après deux périodes, c'était 3-1 pour les Flyers. Et Barry Trotz a continué à rouler ses trios en troisième période. Littéralement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est tout, chacun, tous les attaquants joués. À mi-chemin de la troisième période, il a donné une présence à son quatrième trio, qui est un super bon quatrième trio, il faut dire en passant, Matt Martin, Kyle Clutterbuck et Casey Cizikas, qui sont ensemble depuis des années avec les Islanders. Il donne une présence à leur quatrième trio. La prochaine présence, c'est pour son troisième trio, qui est maintenant piloté par Jean-Gabriel Pageau, qui, comme d'habitude, joue super bien en série. Mais ce que ça fait, c'est qu'ils ont eu des présences, ils ont mis beaucoup de pression sur les Flyers, ils étaient dans la zone offensive. Le trio de Pageau était contre le trio de Couturier, puis ils ont passé quasiment toute leur présence dans la zone des Flyers. Puis deux présences plus tard, les Islanders marquent un but.
Ouais.
Et je pense que c'est un peu ça le point de Claude, c'est qu'il aimerait ça avoir quatre trios où il n'a pas peur de les mettre n'importe quel des quatre dans n'importe quelle situation, puis éventuellement en sachant que ça va mener à un affrontement où tu as un avantage contre des gars fatigués ou des gars qui ont été sur la glace longtemps, ce qui s'est produit sur ce but-là, et tu vas être capable de marquer de cette façon-là, effectivement à cause du fait qu'il manque cette joueur de concession-là sur lequel tu peux compter pour te donner un but à un moment critique. Le Canadien n'a pas ça, même avec Suzuki, même avec Kotkaniemi qui s'améliore. Ils ont quand même pas ça, alors il faut qu'ils trouvent une façon d'être une bonne équipe sans ça. Et je pense que les Islanders, ils donnent un bon exemple de ça.
C'est vrai, puis il y a un bon rapprochement à faire entre les deux équipes, entre le Canadien et les Islanders, mais en même temps, tu sais, je comprends le rêve de vouloir y aller à quatre trios et à dire, ben, dans un monde idéal, on roulerait les quatre trios, tout le monde jouerait 14 minutes, tout le monde pourrait jouer contre tout le monde. Et on aurait tellement de profondeur que, tu sais, par exemple, à Montréal, on pourrait avoir Paul Byron et Arturi Lehkonen sur un quatrième trio. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a une réalité, ne serait-ce que financière, qui rentre en ligne de compte. C'est que tu peux difficilement, surtout dans un contexte où le plafond salarial demeure fixe pour 2 ou 3 ans, te retrouver avec des joueurs de profondeur qui vont gagner 3 millions par année. Tu parles des Islanders de New York. Ils ont un gars qui s'appelle Cal Clutterbuck qui frappe beaucoup et qui est très impliqué, mais il gagne 3,5 millions par année. Ses équipes, son contrat, je pense, vient à échéance. Lui aussi, il va commander un salaire peut-être plus élevé que ça encore. Puis on parle quand même de joueurs de soutien. Fait que je ne sais pas dans quelle mesure c'est réaliste de viser ce type de hockey-là. C'est là probablement que la venue de jeunes joueurs qui arrivent pas au salaire minimum, mais du moins avec leur entry level, pourrait peut-être aider en ce sens-là. Mais ça m'apparaît... En tout cas, tant mieux si ça fonctionne, mais je pense que clairement, ce que ça a illustré les dernières séries éliminatoires, c'est que le Canadien n'avait pas suffisamment de profondeur pour pouvoir fonctionner de cette manière-là. Parce que, bon, je l'ai dit dans des podcasts précédents, le Canadien était à peu de choses près une équipe à 10 attaquants. Peut-être 11. À mesure que les matchs avançaient, on a vu Jake Evans de plus en plus s'imposer. Puis je pense que lui, c'est un gars qui pouvait pratiquement amener l'équipe à 11 attaquants. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est à peu près la limite de là où on pouvait aller avec la formation actuelle. Puis je pense que si le Canadien veut continuer dans ce sens-là, puis dire, bon, ben nous, on veut continuer d'être une équipe bâtie sur 4 trios, puis revenir à ce qui faisait le succès de l'équipe, particulièrement au début de la saison 18-19, où là, on voyait justement les trios venir un après l'autre, puis éreintait l'adversaire. Si on veut revenir à ça, je pense qu'il va falloir que Marc Bergevin en tienne compte dans la façon dont il va améliorer son équipe, puis dans le type de joueur qu'il va aller chercher pour pouvoir s'assurer que l'équipe soit bien tenue sur 4 trios avec une profondeur suffisante.
Oui, exact. Puis dans le fond, un bon exemple de ce que tu parles, c'est que la raison que les Islanders sont capables de payer Clyde Clutterbuck au-dessus de 3 millions de dollars, c'est que la plupart de leurs meilleurs joueurs, Matthew Barzal entre autres, ne gagnent pas un salaire énorme. Je pense Anders Lee gagne 7 millions par année, mais ils sont capables à cause du fait qu'ils ont un certain équilibre financier dans les deux premiers trios, ce qui leur donne assez de lousse pour dépenser plus sur leurs deux derniers trios. Sauf que, et c'est ça le problème que le Canadien va commencer à avoir si Suzuki et Kotkaniemi continuent comme on les voit en ce moment, puis s'ils continuent à s'améliorer, c'est que, tu sais, Matthew Barzal, son entry level est sur le point de terminer. Et, ou c'est son deuxième contrat, je ne suis pas trop certain. En tout cas, il est joueur autonome.
Il va commencer son deuxième contrat, fait qu'il faut...
C'est ouais, ça.
Il va passer à la
banque. Alors, il va passer à la banque, puis ça va nuire aux Islanders en termes d'être capable de payer des gars de soutien, des salaires qui sont assez intéressants pour les garder. Et c'est un peu ça que, tu sais, Marc Bergevin, il en a fait référence plusieurs fois samedi passé, en mentionnant que non seulement il faut qu'on prévoie les joueurs qu'on aimerait ramener, comme Gallagher, Tatar, Dano, toute cette groupe-là de joueurs autonomes sans compensation après la saison prochaine, mais il faut aussi avoir le budget de signer des gars comme Suzuki et Kotkaniemi parce que, tu sais, l'organisation espère que ces joueurs-là vont prendre leur essor, vont vraiment prendre un autre pas la saison prochaine et devenir des joueurs, tu sais, top 6 assez, peut-être pas dominants, mais solides, tu sais, des joueurs de top 6 légitimes où t'es pas juste en train de les jouer parce qu'ils sont jeunes, t'es en train de les jouer parce que c'est tes meilleurs joueurs. Alors, si ça arrive, une fois que leur contrat, leur premier contrat se termine, leur salaire va augmenter beaucoup là, dans la façon que la Ligue nationale fonctionne de ces jours-là. Alors, c'est pour ça que, tu sais, quand Claude Julien parlait du fait que Marc est conscient de ça, puis il va faire en sorte qu'on aille la profondeur nécessaire pour jouer de cette façon-là, je pense qu'il parle non seulement des transactions ou des joueurs autonomes, mais il part du repêchage, il part du fait qu'il faut tout le temps avoir une certaine, tu sais, ben comme tu l'as écrit dans ton texte dernièrement, je me rappelle lequel, mais il faut qu'un route de développement soit là. Puis il faut que ça tourne. Puis il faut que tout le temps, qu'il y ait tout le temps des joueurs qui arrivent pour remplacer les joueurs qui deviennent trop chers, sans nécessairement perdre de qualité, mais juste perdre un fardeau financier qui leur permet de dépenser sur des autres joueurs sans perdre nécessairement une qualité de jeu parmi leurs joueurs de soutien, puis rendre le développement des joueurs, tu sais, en deux étapes. Tu sais, tu commences à Laval, tu joues 2 ans là-bas, pendant que ces contrats-là se terminent. Une fois que ces contrats-là sont terminés, tu arrives à Montréal, tu joues un rôle de soutien, tu commences à apprendre comment ça fonctionne dans la Ligue nationale pendant 1 ou 2 ans, puis après ça, tu es prêt pour se rendre dans des rôles un peu plus significatifs, un peu plus importants au sein de l'équipe, quand tu es rendu à un âge où tu es capable de le faire.
Bien, je pense que Ryan Poehling, c'est un très bon exemple de ça. C'est un gars qui a passé une saison à Laval, une saison peut-être une adaptation assez ardue dans les rangs professionnels, mais je le vois très bien arriver jouer sur le 4e trio la saison prochaine, puis la saison suivante, alors qu'il y a peut-être un ailier, peut-être un Tomáš Tatar qui va avoir quitté, ou un Yoel Armia ou quoi que ce soit, que lui pourrait s'intégrer dans le top 9 et puis justement faire en sorte que la roue tourne continuellement. Donc ça, c'est... Mais faut comprendre que pendant des années, le Canadien n'a pas eu ça. Tu sais, à part... dans les dernières années, à part Arturi Lehkonen qui a été repêché au début des années 2010, je sais pas, c'était-tu 2012 ou 2013? 2012. Il n'y a pas eu beaucoup de ces gars-là. Charles Hudon a cogné à la porte, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Mais tu sais, tous les Sven Andrighetto de ce monde, des gars comme ça, qui n'ont pas été en mesure finalement de faire fonctionner la machine, puis de faire en sorte que les Canadiens puissent se permettre de laisser aller des joueurs, parce qu'ils savaient qu'à l'intérieur même de leur système, il y avait quelqu'un qui était là pour les remplacer. Finalement, j'ai l'impression que cette machine-là se met en marche, puis le Canadien va pouvoir en tirer les dividendes. Mais j'aimerais t'amener sur... Parce qu'on a parlé à des joueurs cette semaine, on a parlé au coach, tu l'as mentionné, on a parlé également à Jeff Petrie, on a parlé à Philippe Danault, puis j'aimerais ça t'amener sur ce terrain-là. Entre autres, Jeff Petrie, qui a clairement dit, puis je ne sais pas dans quelle mesure on peut identifier ça comme une pointe à l'endroit de son entraîneur, mais il a dit grosso modo, il dit c'est bien beau de vouloir jouer défensif, puis c'est vrai que la défensive c'est important, mais à un moment donné, il faut qu'on ait suffisamment de punch à l'attaque pour marquer des buts, qu'on soit capable de revenir si on est en retard 2-0 dans un match, et puis on a également besoin d'ajouter un peu de poids, un peu de gabarit à notre équipe parce qu'on est trop petit. J'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant de sa part de faire ce diagnostic-là. Je pense qu'il y a plusieurs amateurs qui l'avaient déjà fait, mais c'est rare qu'un joueur prenne la peine de le dire de manière aussi libre, de manière aussi ouverte. Alors, est-ce que tu penses que ce que Petrie a dit, alors qu'il arrive à la dernière année de son contrat, puis que lui, il va être en position de se dire « est-ce que c'est le genre d'équipe avec laquelle je veux rester? » Est-ce que tu vois une opposition entre l'approche de Claude Julien et puis ce que Jeff Petrie a dit?
Oui et non, dans un sens. Je pense que Claude Julien, ce qu'il veut, c'est de fournir ce que Jeff Petrie veut. Tu sais, c'est comme... c'est la façon que Claude Julien veut jouer, c'est effectivement pour fournir ce punch à l'attaque-là. Tu sais, il est convaincu que si le Canadien est capable... De rouler leur trio, puis d'avoir du profondeur. Puis, tu sais, Claude a aussi mentionné l'arrivée d'Alexander Romanov, quelqu'un que Claude a dit qu'il n'y a aucun doute qu'il jouera à Montréal l'année prochaine, ce qui était quand même un peu plus fort que je m'attendais. Mais il a dit aucun doute qu'il joue. Alors, ça aussi, c'est une question de profondeur. Et c'est que, tu sais, tu regardes tous les espoirs. Et tu sais, on le mentionne tout le temps, et c'est un point sur lequel tu mets beaucoup d'emphase, puis je suis d'accord avec ça, que tu sais, avoir un groupe d'espoir qui a de la profondeur, qui est varié, qui a des espoirs à chacun des positions, c'est vraiment bien. Mais quand ce groupe-là n'a pas une vedette à venir évident, ça veut dire que ça se peut qu'il y a des joueurs là-dedans qui deviendraient des vedettes, des joueurs autour duquel tu peux bâtir une équipe, mais T'sais, maintenant, on n'est pas capable de dire que Cole Caulfield va être un marqueur de 40 buts dans la Ligue nationale. On le sait pas. Ça se peut? Ça se peut pas. Même Romanov. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il va être un gars qui veut jouer 25 minutes par match et jouer sur une première paire de défense? On le sait pas. Ça se peut. Ça se peut pas aussi. Alors, les joueurs, les Canadiens ont beaucoup de joueurs comme ça. Alors, étant donné que A, c'est ça la situation, B, ils n'ont pas souvent beaucoup de succès sur le marché des joueurs autonomes, et honnêtement, c'est pas la meilleure façon de bâtir une équipe. T'sais. Moi, je trouve que le temps d'aller frapper dans le marché des joueurs autonomes, c'est quand ton équipe est rendue à une étape ou deux, ou un joueur ou deux, d'être un vrai concurrent pour la Coupe Stanley, là, tu t'en vas chercher un joueur autonome. Mais avant ça, il faut que tu bâtis l'équipe. Il faut que tu bâtis tous les autres morceaux nécessaires. Puis là, si tu as besoin d'un dernier pour te rendre à un autre niveau, ben vas-y, fais-le. Mais tu bâtis pas une équipe en utilisant le marché des joueurs autonomes. Alors, étant donné tout ça, je pense que l'approche de Claude est bonne et effectivement, Claude veut les mêmes choses que Jeff Petrie. Claude a été demandé la question, est-ce que tu aimerais ça avoir plus de gabarit sur ton équipe? Puis il l'a pas nié, il a dit oui, effectivement, oui, on aimerait ça, mais il faut que tu sois capable de jouer. Tu peux pas juste être un gros gars qui frappe, il faut que tu sois capable de jouer de la façon que nous, on aimerait ça jouer. Et c'est ça, tu sais, quand t'as parlé de Cal Clutterbuck, c'est un gars qui frappe, Matt Martin aussi, c'est un gars qui frappe. C'est vrai, mais tu sais, ils patinent. Ils sont capables de suivre le rythme. Ils sont capables d'imposer leur propre rythme sur un match. Tu sais, c'est. Je trouve que quand ils sont sur la glace, le match, plus souvent que non, va plus ou moins de façon. Tu sais, ils jouent avec la cadence, disons, que eux autres veulent imposer à cause de leur jeu physique, à cause du fait qu'ils sont capables de créer des revirements et créer un peu de nervosité, honnêtement, là, dans leurs affrontements. Et souvent, tu vas voir des joueurs se débarrasser de la rondelle quand Matt Martin s'en vient, je le blâme pas. Mais c'est la réalité des choses. Et je pense que c'est un peu ça que tu dois rechercher. T'sais. Tu dois chercher, si tu veux ajouter de la gabarit, mais si tu veux que ça roule dans ton système, t'sais, il faut que ce gars-là soit capable de patiner sans nécessairement marquer des buts, mais il faut qu'il patine, il faut qu'il garde le rythme du match à un haut niveau, parce que c'est comme ça que au cours d'un match, et particulièrement au cours d'une série, ça va porter fruit avec des buts des autres trios, des gars qui sont un peu plus d'habilité. Mais je pense que la philosophie de Claude et ce que Jeff Petrie disait, ça s'aligne pas mal, mais tu sais, c'est... Peut-être que ça prendrait des ajustements tactiques de la part de Claude Julien. Peut-être impliquer le troisième attaquant un peu plus souvent dans l'échec avant en zone offensive au lieu que ça soit juste à deux hommes. Donner un peu plus de liberté à ses joueurs de prendre des décisions qui vont peut-être mener à un peu plus d'attaque. Mais je pense, en parlant de façon générale, je pense que les deux hommes ont le même but en tête et ont juste peut-être des façons différentes de voir comment l'atteindre.
Ouais. Je pense qu'il y a été beaucoup question de Philippe Dano cette semaine. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a créé une controverse, mais jusqu'à un certain point, oui, parce que si je me fie à la réponse des amateurs sur les médias sociaux, il y en a plusieurs qui ont été offusqués de voir que Dano refusait d'une certaine manière de laisser sa place en disant « ben écoutez, c'est bien beau les jeunes, mais... » jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le centre du premier trio, puis je veux pas que mon rôle change. Moi, j'ai trouvé ça, au contraire, très, très sain de sa part de vouloir défendre sa place, de montrer qu'il était... t'sais, qu'il revendiquait sa position. Il revendiquait aussi la chance de prouver qu'il est capable de continuer de s'améliorer. Puis que, dans le fond, la fameuse compétition à l'interne, on parle toujours de compétition à l'interne au sein d'une équipe de hockey, ben lui, c'est comme il dit... d'une certaine manière, c'est comme s'il dit « Amenez-en de la compétition, je vais vous prouver que c'est encore moi qui peut le mieux répondre aux attentes comme premier centre. » Cela étant dit, on peut quand même se poser des questions à savoir si lui va juger au terme durant la prochaine année que Montréal est le meilleur endroit pour lui offrir ce qu'il recherche, parce que dans son évaluation à lui, s'il n'est pas un centre de premier trio typique, ben au pire, il est un très, très bon deuxième centre. Sauf que si le Canadien voit Suzuki et Kotkaniemi continuer de progresser, ben à un moment donné, Philippe Dano va finir troisième centre. Puis ça, je pense que ce serait une suite logique à la situation.
Ben en fait, c'est-tu quoi? Les propos de Jeff Petrie et Philippe Dano, pour moi, sont révélatrices dans le sens où le job de Claude Julien, tu sais, son principal responsabilité en ce moment, c'est de vendre sa vision des choses à ses joueurs. On parle de deux joueurs très importants au sein de l'équipe.
Ouais.
C'est à Claude Julien d'aller parler à Philippe Dano et dire, écoute, dans la façon que moi je vois les choses, même si t'es, tout le monde, tous les médias disent que t'es mon troisième centre, là, moi je te vois pas demain. Toi, tu vas quand même amorcer la plupart des matchs. Toi, tu vas quand même être sur le premier unité d'infériorité numérique. Toi, tu vas jouer 17 à 18 minutes par match, mais les jeunes vont jouer aussi, puis ils vont jouer dans des situations un peu plus propices à produire de la, tu sais, à fournir de l'attaque. Et toi, tu vas jouer dans des situations où j'ai besoin qu'on, tu sais, des situations précaires dans notre zone. C'est là où j'ai besoin de me fier à toi, de nous sortir de cette situation-là. Ce qui est exactement ce qu'il fait en ce moment. C'est pas comme si Philippe Dano commence toutes ses présences en zone offensive. C'est pas vrai. Il y avait aucun joueur du Canadien qui a amorcé moins de présence en zone offensive que Philippe Dano en termes de pourcentage. Alors, quand il dit mon rôle, oui, peut-être son rôle dans le sens où il est sur la meilleure ligne d'attaque du Canadien, puis il aimerait ça rester avec ça. Mais disons que Marc Bergevin trouve une façon pour faire en sorte que Philippe Dano garde Thomas Tatar et Brendan Gallagher comme ses compagnons trio l'année prochaine. Mais il est capable de chercher d'autres personnes qui seront capables de jouer avec Kotkaniemi et Suzuki pour faire en sorte qu'il y ait trois lignes d'attaque qui peuvent tous marquer. Est-ce que Philippe Dano, est-ce que ça va lui déranger que les jeunes reçoivent un peu plus de temps de glace, puis lui, il reçoit peut-être un peu moins? Je pense pas. Je pense qu'il va quand même se sentir important. Il va quand même être dans des situations très importantes. Et je pense que c'est juste ça qu'il veut. Il veut que son importance au sein de l'équipe soit maintenue. Et je pense qu'il y a une façon de le faire, que lui, il sent important au sein de l'équipe, mais que Kotkaniemi et Suzuki aussi prennent plus d'importance au sein de l'équipe. C'est juste une question pour Claude Julien de vendre sa vision des choses et vendre cette philosophie d'une attaque à quatre trios et tout ça. S'il n'est pas capable de le vendre, ou si Philippe Dano ou Jeff Petrie ou qui que ce soit n'est pas convaincu, alors là, le Canadien aura un problème. Mais même si ça se produit comme ça, c'est un problème d'un bord, mais c'est ça la beauté de la situation du Canadien, c'est que si jamais Philippe Dano décide que, OK, je vais aller ailleurs, puis je vais avoir un rôle plus important ailleurs, alors là, il y a de l'argent que le Canadien peut dépenser sur quelque chose d'autre. T'sais. Il ne veut pas perdre Philippe Dano, mais ils sont dans une très belle situation où il y a tellement de joueurs, où ils auront l'option de ou les garder ou de les re-signer, puis je suis convaincu que Marc Bergevin aimerait ça garder Philippe Dano. Mais si jamais Philippe Dano décide que c'est lui qui veut quitter, là, tu as de l'argent à jouer avec, puis là, tu as beaucoup plus de flexibilité au sein de ton alignement. Et c'est ça qui est intéressant pour le Canadien, à mon avis, en ce moment.
Ouais, puis c'est quoi? C'est que si, ne serait-ce que pour se prémunir de la possibilité que Dano choisisse d'aller ailleurs l'année prochaine, on parle à l'été 2021, peut-être que, en soi, c'est une raison suffisante à mes yeux pour que le Canadien garde Ryan Poehling dans les parages. Et comme police d'assurance, parce que pour l'instant, la manière dont les choses semblent se placer, l'avenir de Ryan Poehling avec le Canadien a l'air davantage à l'aile qu'au centre, mais sait-on jamais, si jamais il devait y avoir des changements à ce niveau-là, lui pourrait toujours devenir le troisième centre de l'équipe. Mais je te rejoins tout à fait là-dessus, puis tu sais, la saison prochaine, moi je m'attends personnellement à ce que Thomas Tatar soit de retour puis qu'il écoule la fin de son contrat avec les Canadiens. Je m'attends pas à ce qu'il se fasse échanger durant l'automne, mais même si le Canadien maintient son trio Tatar, Dano, Gallagher en vue de la saison prochaine, là où il va vraiment s'améliorer, ce serait pas en changeant ce trio-là, c'est en faisant en sorte que autour de ces gars-là, le Canadien s'améliore suffisamment pour que ce qui était le premier trio de l'équipe l'année dernière devienne le deuxième. C'est-à-dire que s'arranger pour que Nick Suzuki ait des ailiers de suffisamment bonne qualité pour que ce trio-là génère autant d'attaques, sinon plus que le trio de Dano. Mais à partir de ce moment-là, on peut pas. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui va rechigner sur le fait que l'équipe s'améliore. Mais si la saison prochaine, le trio Tatar, Dano, Gallagher demeure intact, puis on sait que ça a tellement été une formule gagnante pour cette équipe-là, je pense que l'équipe ne peut pas faire autrement que d'en sortir gagnant. Cela étant dit, c'est plus facilement dit que fait, mais il va falloir que ça va revenir à Marc Bergevin de trouver une façon de dénicher un ailier qui pourrait améliorer l'équipe offensivement.
Oui, effectivement. Alors ouais, c'est ça. Je pense que c'est une semaine intéressante en termes de tout ce qui s'est dit. Puis je pense que ça démontre que le Canadien est rendu à un moment un peu clé dans leur développement comme équipe. Tu prends l'expérience en série, tu prends les contrats qui viennent en échéance, tu prends les espoirs qui s'en viennent. Tout se semble arriver en même temps. Et tu sais, je pense que quand Marc Bergevin, il y a 2 ans, il a dit que j'aimerais faire un petit reset, je pense que c'est exactement ça qui visait comme situation. Où il y a des vétérans, il y a des jeunes qui poussent, il y a de la compétition à l'interne, il y a de la flexibilité sur la masse salariale, il y a toutes sortes d'affaires qui fait en sorte que cet été-là est vraiment un été avec tellement d'opportunités pour Marc Bergevin, comme on a écrit au début de la semaine. Là, c'est vraiment une opportunité pour Marc Bergevin d'utiliser tous les avantages qu'il a dans le portrait financier de toute la Ligue nationale de hockey avec des équipes. T'sais, il y avait Doug Armstrong l'autre jour qui annonce une troisième chirurgie sur l'épaule de Vladimir Tarasenko, qui parle d'être capable de re-signer Alex Pietrangelo. Il n'y a pas beaucoup d'argent à dépenser. Et il y a des DG autour de la Ligue qui sont dans une position très similaire à Doug Armstrong en ce moment, puis Marc Bergevin, il l'est pas. Alors, c'est vraiment arrivé à un moment opportun pour le Canadien que Marc Bergevin se retrouve cette saison morte avec la flexibilité et tout ça qu'il a, et avec toutes sortes de ses collègues qui ont aucune flexibilité pantoute. Alors, ça va vraiment être intéressant à voir ce que Marc Bergevin va faire avec tous ces avantages-là qu'il a clairement que beaucoup d'autres des équipes autour de lui ou dans sa division ou dans le classement général sont des avantages que ces équipes n'ont pas.
Mais tu sais, Arpin, en terminant, là, on a parlé tout à l'heure du fait que même si l'équipe avait été éliminée en première ronde, il y avait une aura d'optimisme autour de cette équipe-là. Mais tout cet optimisme-là, toute l'idée de dire « Ah ben là, le Canadien, pour reprendre l'anglicisme, est en train de tourner le coin », tout ça est rendu possible seulement parce que Carey Price a laissé savoir qu'il pouvait encore être Carey Price. Parce que honnêtement, si Carey Price avait eu des performances moyennes, qu'il avait été le gardien correct des 2-3 dernières années, le gardien dont on dit, ben coudonc, pour ce qu'il donne aux Canadiens, c'est pas un bon investissement, je pense pas qu'on garderait les choses de la même manière. C'est vraiment parce que Carey Price a démontré qu'il était encore capable de faire partie de l'élite et qu'il était encore capable de charrier cette équipe-là jusqu'à un certain point, que cet optimisme-là revient. On a beau parler de Suzuki, de Kotkaniemi, d'accord, sauf que si le joueur le mieux payé de ton équipe n'est pas en mesure d'offrir des performances qui sont au-dessus de la moyenne, ben t'as un problème qui va être extrêmement difficile à régler. Puis je pense que la meilleure nouvelle de ces séries éliminatoires-là, puis qui font en sorte que le Canadien peut se consoler en disant on a peut-être plus le 9e choix au repêchage, on va avoir le 16e au lieu, mais au moins il a appris durant ce mois-là à Toronto que son gardien vedette n'était pas juste un gardien vedette à cause de sa réputation, mais que sur la glace, s'il est bien reposé, il est encore capable de faire partie de l'élite. Puis ça, je pense que c'est extrêmement précieux pour l'avenir.
Oui, puis je pense que ça, c'est pour terminer, mais la dernière chose ou l'autre chose que Claude Julien a dit mercredi, ce qui était significatif, c'est que pour la première fois, il a avoué que Carey Price a besoin de repos. Et c'est pas la première fois qu'il a avoué ça, mais c'est la première fois qu'il l'a fait sans dire que le Canadien a bien géré son repos pendant la saison, qu'il a pris des entraînements de congé, qu'il y a pas, il y avait des journées off, ça, puis ça équivaut à des matchs pas joués, blablabla. Tout ça, ce que Claude disait tout le temps avant, pour la première fois mercredi, il l'a pas dit, et lui-même, il était demandé une question très générale, comment est-ce que le Canadien peut prendre un pas d'avant l'année prochaine? Puis ce premier point qu'il a fait, c'est qu'on a vu ce que Carey Price peut faire quand il est reposé. Là, c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait le repos approprié pendant la saison pour qu'on puisse voir cette version de Carey Price plus souvent en saison régulière. Et la seule façon qu'on va faire ça, c'est d'avoir un gardien de but qui peut venir jouer des matchs, lui fournir le repos nécessaire. Et tout d'un coup, avoir un entraînement de congé n'équivaut pas à un match de congé. Là. C'est tout d'un coup, ça a changé.
Non, c'est
la première fois que Claude Julien a mentionné ça sans dire que la gestion de Carey Price pendant la saison est suffisante. Alors ça, c'est un bon signe aussi, parce que je pense que les Canadiens ont besoin de juste accepter le fait qu'ils payent leur gardien 10,5 millions par année, et c'est leur décision, puis c'est ça de l'offrir. Carey Price l'a pris. Là, étant donné que tu l'as fait, va dépenser l'argent approprié sur une deuxième gardien qui va te permettre de profiter pleinement de cet investissement sur Carey Price pour avoir le meilleur Carey Price possible, au lieu d'aller cheap tout le temps sur son deuxième gardien et faire en sorte que Carey Price doit jouer 65 matchs par année.
Oui, c'est ça. Puis ton auxiliaire, il va être signé jusqu'à ce que Caden Primo arrive, soit en mesure de lui aussi assumer sa part de match au niveau de la Ligue nationale, pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour faire en sorte que la roue tourne de cette manière-là. Fait que c'est pas, je pense que à ce niveau-là, aller chercher un adjoint de qualité, ça va être important, mais Marc Bergevin va devoir faire un travail de vente assez réfléchi puis assez différent des autres années, parce que partout à travers la Ligue, les gardiens se disent « Ouais, mais là, Montréal, pour un substitut, c'est un cimetière, c'est là que je vais jouer le moins de matchs. Si je m'en vais là, je vais être au bout du banc constamment. » Il va falloir que Marc Bergevin envoie le signal, puis que les gardiens de but concernés, que leurs agents également, comprennent que l'approche à Montréal va changer pour vrai, que ce ne sera plus seulement des vœux pieux, mais que si un gardien est intéressé de venir à Montréal et d'être l'adjoint de Carey Price, inquiétez-vous pas, des matchs, vous allez quand même en avoir. Puis si vous n'êtes pas certain, ben on va rajouter un peu plus d'argent pour vous convaincre, ouais, finalement. Sauf qu'il faut que le pitch de vente change un petit peu par rapport à ce que c'était autrefois.
Oui, absolument. Alors, on va terminer là-dessus. Je pense que je ne sais pas ce serait quoi la cadence de nos podcasts, étant donné que les Canadiens sont plus en série. On va sûrement faire une autre ou deux avant le repêchage, c'est sûr. Mais tu sais, juste continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir c'est quoi les prochains épisodes. Mais c'est ça, on verra. Probablement la semaine prochaine, on va en avoir un en anglais. Mais après ça, ça se peut qu'on prend une petite pause pour un petit bout.
Ouais, c'est ça. On va y aller probablement selon les au rythme des nouvelles qui vont arriver, qui vont justifier la présence d'un podcast ou non. Alors, mais écoute, les choses vont arriver vite. Hein. On arrive déjà au mois de septembre, puis dans un mois et demi, il va y avoir le repêchage. Fait que non, tout ça va débouler plus vite qu'on le pense. Ça va être. Puis honnêtement, Arpin, ça va être la saison morte, la plus vivante.
Ouais, absolument.
Qu'on va vivre, ça va être c'est la vraie saison morte. Je pense qu'on l'a eu pendant la pandémie, puis pendant le
confinement.
Le confinement, exactement. Mon Dieu, j'ai déjà oublié ce mot-là. C'est bien comme on a une mémoire sélective des fois à l'intérieur de notre cerveau. Et puis, mais sauf que la période qui s'en vient va être rempli d'actions, je pense, pour les Canadiens. Alors, bien de voir ça. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci, Arpin, également, de ta collaboration, ta participation, comme toujours. Puis, on se reparle bientôt, tout le monde. À bientôt.
Bye-bye.